À l'écoute des Pères, l'émission de dialogue RCF sur les Pères de l'Église avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton Père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7.
Bonjour Jean Charmois.
Bonjour Frédéric.
Après avoir écouté les pères de langue syriaque et décrit les débats théologiques qui ont suivi le concile de Chalcédoine, il est temps de revenir en Occident et d'y écouter les pères principaux postérieurs à Augustin d'Hippone, dont vous avez fait plusieurs émissions sur cette antenne. Nous allons nous attacher aujourd'hui à un père qui n'a pas été un spécialiste de théologie, mais un pasteur, homme de prière et de charité, qui nous a laissé une œuvre poétique magnifique. En plus, c'est un Français. Bonjour Jean.
Alors, Paulin de Nôles, né à Bordeaux en 353, est mort à Nôles. Nôles, c'est une à côté de Naples, en 431. C'est un exemple d'une conversion aristocratique à l'ascétisme chrétien. C'est une figure d'un grand prestige politique et religieux dans un empire romain tardif, marqué par les invasions barbares. Alors, il est né à Bordeaux, il est destiné à une carrière politique. Il devient consul à Rome en 378, gouverneur de la Campanie, c'est-à-dire de la province qui est autour de Naples, dans la ville capitale de Nôles, ou Nola en italien, et en 381, c'est-à-dire il a 28 ans. Dans cette carrière publique, il fait admirer ses dons de sagesse et de douceur, et c'est au cours de cette période qu'il commence à sentir la semence de la conversion vers la foi chrétienne. Alors, l'impulsion vient de la foi simple et intense avec laquelle le peuple honorait la tombe d'un saint qui se trouve vers Nôles, le martyr Félix du 1er siècle, dans le sanctuaire de l'actuel Simitil, enfin à Nôles. En tant que responsable du bien public, Paulin s'intéresse à ce sanctuaire et fait construire un hospice pour les pauvres et une route pour les nombreux pèlerins. À ce moment-là, des difficultés avec les autorités publiques et commence à voir le monde sous un autre regard. Il souhaite faire la lumière sur le sens de son existence. Il se rend à Milan pour se remettre à l'école d'Ambroise, le célèbre père auquel on a consacré deux émissions. Et toute sa vie, il va se considérer comme le fidèle disciple d'Ambroise. Et il revient en Aquitaine, sur les sollicitations de sa mère, puis se rend en Espagne, où il épouse une riche chrétienne espagnole, Tarasia. Et on va voir tout au long de sa vie ce couple de deux chrétiens mariés qui vont être toujours unis dans tout ce qui va être le rôle de ce futur évêque. Il retourne en Aquitaine, il est baptisé à 46 ans par Delphinus, ou Delphin, l'évêque de Bordeaux. Mais ils subissent de graves épreuves, lui et sa femme. Ils perdent leur enfant en bas âge. Le frère de Paulin meurt d'une mort violente. Et ils sont donc incités à renoncer à leurs privilèges et à mener désormais une vie de chasteté. Le couple vend ses terres et décide de quitter le monde en embrassant une vie monastique conjugale. Sous la pression populaire, Paulin est ordonné prêtre malgré lui, au cours d'un séjour à Barcelone le jour de Noël 394. Il repart ensuite à l'Italie, à Nôles en compagnie, auprès de la tombe du martyr Saint Félix. Les deux époux consacrent tout leur bien à la construction d'un complexe religieux. Paulin fait agrandir le sanctuaire avec une nouvelle basilique couverte de fresques. Aujourd'hui encore, on peut admirer les restes de ses réalisations. Ce sont des fresques sur l'Ancien Testament. Et il écrit dans une de ses lettres « Je veux à présent que tu vois la longue série des fresques sur les portiques peints et que tu fatigues un peu ta nuque en l'inclinant jusqu'à ce que le visage penché en arrière, tu puisses tout lire. » La peinture contient dans un ordre fidèle tout ce que Moïse, alors âgé, a écrit dans ses cinq livres et tout ce qu'a fait Josué, qui porte le nom du Seigneur Jésus. Alors on se demandera peut-être quelle raison a inscrit en nous l'idée de réaliser cela, l'idée de peindre les saintes demeures avec des représentations d'êtres vivants, selon une coutume qui est rare. Et personne n'ignore les assemblées que le renom de Saint Félix conduit ici. Mais la majeure partie de cette foule est composée de gens de la campagne, non dépourvus de foi, mais illettrés. Il nous a donc semblé utile de présenter, dans toutes les demeures de Félix de saintes peintures, dans l'espoir que par ces spectacles, les esprits attentifs des paysans soient saisis par les diverses couleurs explicitées au-dessus par des inscriptions. Donc les deux époux vont vivre cette vie conjugale ascétique et Paulin va s'engager dans un ministère pastoral auprès des pèlerins et il va gagner la confiance de la communauté chrétienne. Si bien qu'à la mort de l'évêque de Nôles, il est consacré évêque de Nôles en 409. Il multiplie son action pastorale, son ascension à l'égard des pauvres. Grégoire le Grand va parler de lui dans son livre des Dialogues et va le décrire comme un authentique pasteur de la charité, comme un évêque proche de son peuple, malgré les tristes événements des invasions barbares. Et il va entretenir toute sa vie des rapports avec les empereurs, les papes et prendra position sur plusieurs controverses théologiques.
Jean, quelle est l'œuvre de Paulin de Nôles ?
Alors Nôles est un des plus grands poètes latins chrétiens. Il nourrit une correspondance qu'il met en contact avec ses amis comme Ozone, un poète chrétien non païen, et des figures religieuses de son époque comme Augustin, Ambroise de Milan, Jérôme, Sulpice Sévère, Martin de Tours. On a conservé de lui des poèmes, un ensemble de lettres, et ses lettres et ses poèmes parlent surtout de l'ascèse, dans la recherche d'une vie parfaite. Il parle de l'amitié chrétienne et du culte des saints. Alors, c'est un poète, oui, mais c'est un poète chrétien. Paulin répond au reproche de son maître en poésie, Ozone, qui était aussi son ami, et qui s'est senti trahi par le fait que Paulin devienne chrétien. Il lui répond que l'amitié est plus forte que la mort. Il écrit « Lorsque libéré de la prison du corps et de la terre, je me serai envolé dans la voûte céleste où notre Père commun m'aura établi, là aussi je te porterai dans mon âme. Et même cette fin qui me séparera de mon corps ne me séparera pas de ton amour. Car l'esprit qui survit à la chute des membres subsiste par son origine céleste. Il est nécessaire qu'il conserve à la fois ses sentiments et ses affections comme sa propre vie. Et de même qu'il ne peut mourir, il ne peut oublier, vivant et se souvenant pour l'éternité. » Donc voilà une nouvelle esthétique qui va gouverner sa sensibilité de poète. Il s'agit de la beauté de Dieu. Il n'a pas abandonné la poésie, mais il puise son inspiration dans l'Évangile. Il écrit « Je ne chanterai pas des fictions, bien que j'utilise l'art de la poésie. Je ferai mon récit avec une sincérité historique et sans la tromperie des poètes. Loin d'un serviteur du Christ, l'idée de proférer des mensonges. Les arts peuvent bien plaire au peuple qu'ils cultivent des faussetés, mais nous n'avons qu'un seul art, la foi, et qu'une seule poésie, le Christ. »
Un grand nombre de poèmes de Paulin intitulés « Chants de Noël » sont liés à la fête du martyr Félix, son patron céleste.
Oui, il écrit de tous côtés et parmi et partout en même temps, tout ce qui s'honore, se célèbre, se tient dans ces lieux, donc on est à Nôles, sous le nom de Saint Félix. Et là, c'est ma demeure dans tous les endroits. Aucun lieu lié et ajouté au sanctuaire de Félix ne s'élève sans qu'il ne soit évident qu'il est pour ainsi dire ma propriété. Et pourquoi me vanterais-je de ce présent de posséder le bien de mon bien-aimé Félix, moi, l'hôte et l'esclave de la maison au toit de pierre visible ? Combien m'est plus important que Saint Félix soit ma propre demeure par un don de Dieu, où ma vie possède une demeure vivante qui ne chancellera pas avec les années ? Enfin, Paulin, à travers ses lettres et à travers ses cantiques, ses chants, ses poèmes, va insister dans sa retraite ascétique sur le souci des pauvres et sur la prière. Alors Paulin et son épouse étaient plongés dans ce qu'on appellera plus tard la Lectio Divina, c'est-à-dire une lecture de l'Écriture méditée, ruminée, assimilée sous le regard de Dieu. Et à ceux qui l'admiraient d'avoir pris la décision d'abandonner les biens matériels, il rappelait que ce geste était loin de représenter la pleine conversion. Il écrit « L'abandon ou la vente des biens temporels possédés dans ce monde ne constitue pas l'accomplissement, mais seulement le début de la course dans le stade. » Ce n'est pas, pour ainsi dire, le but, mais seulement le départ. En effet, l'athlète ne gagne pas au moment où il se déshabille, car il dépose ses vêtements précisément pour commencer à lutter. Mais il n'est digne d'être couronné comme vainqueur qu'après avoir combattu comme il se doit. Et à côté de l'ascèse et de la parole de Dieu, Paulin va promouvoir la charité. La communauté monastique, les pauvres étaient chez eux. Paulin ne se limitait pas à leur faire l'aumône, il les accueillait comme s'il était le Christ lui-même. Ils avaient réservé une partie du monastère, et en agissant ainsi, il ne semblait pas tant donner que recevoir. dans un échange de dons entre l'accueil offert et la gratitude orante des assistés. Il appelait les pauvres ses patrons, et observant qu'ils étaient logés à l'étage inférieur, il aimait dire que leurs prières servaient de fondement à la maison. Et il va établir une corrélation entre pauvreté matérielle et l'ampleur de la foi. Les pauvres vont être érigés en rang de modèle parce qu'ils s'attachent aux vraies richesses. Le pauvre est toujours, chez Paulin, considéré de manière positive. Les mauvais pauvres qui feraient preuve d'égoïsme ou de méchanceté sont absents des poèmes. Paulin fait plutôt des pauvres un modèle de foi et de vie véritablement chrétienne. Et il écrit « Observe donc dans quelles conditions est venu le Fils de Dieu, qui alors qu'il était riche, fut pauvre sur la terre. En venant, Dieu choisit non pas ce qui est élevé, mais ce qui est vil pour le monde, afin de détruire le fort par le faible. Que le riche ne se réjouisse plus de ses richesses, ni le fort de sa puissance, ni le sage de sa grande intelligence. Que personne ne se repose sur sa propre force ou ne s'applaudisse lui-même, puisque tout est semé ou donné par la source qui est Dieu. » Le Christ est devenu le refuge et la figure des démunis. La honte est pour les riches, la gloire pour les pauvres.
Enfin, on peut dire que saint Paulin est un homme de communion, Jean.
Oui, il a conservé un lien très important à travers ses lettres, à travers son cœur, comme en témoigne sa correspondance avec les meilleurs esprits de son temps. Par exemple, un passage significatif d'une lettre à Augustin d'Hippone, le fameux saint Augustin. Il ne faut pas s'émerveiller, si bien qu'étant loin, nous sommes présents l'un à l'autre, et sans nous être connus, nous nous connaissons. Car nous sommes les membres d'un seul corps, nous avons un unique chef, nous sommes inondés par une unique grâce, nous vivons d'un seul pain, nous marchons sur une unique voie, nous habitons la même maison. Et ce témoignage, ce beau témoignage, nous aide à percevoir l'Église comme un sacrement de la communion avec Dieu, et aussi de l'unité de tous les hommes.
Je vous souhaite de passer une excellente semaine. N'hésitez pas à retrouver toutes ces émissions en podcast sur toutes les plateformes.
À l'écoute des Pères, l'émission de dialogue RCF sur les Pères de l'Église avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton Père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7.